Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
Paris 2024 qui approche petit à petit. Il reste encore quelques semaines. L'excitation commence à monter. J'ai l'impression même que cette semaine, ça commence à frétiller et à frémir un peu de partout, hein, Sophie.
On en entend de plus en plus parler. Hein.
Ouais, tous les jours, il y a quelque chose tous les jours.
La vasque olympique qui va être le porte-drapeau. Le fameux porte-drapeau.
Que faut-il pour être porte-drapeau? Que ne faut-il pas faire? Les volontaires sont là. Et puis, pendant ce temps-là, eh bien, les athlètes, eux, continuent de s'entraîner. Enfin, il y en a qui rentrent de vacances aussi, qui coupent un peu et qui repartent à l'entraînement. On va en parler avec l'un des espoirs français de l'athlétisme. Il s'appelle Thibaut Collet et il est perchiste et il est avec nous. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Bonjour Thibaut.
Merci d'être avec nous, Thibaut. Je le disais, il y en a qui font des compètes, il y en a d'autres qui s'arrêtent. Toi, tu as eu un gros boom avec les championnats de France, avec les championnats d'Europe en salle. Et puis, il a fallu un petit peu couper quand même avant d'attaquer la saison plein air, c'est ça, Thibaut ?
Ben oui, c'est ça. En fait, il y a eu ce besoin de quand même couper quelques jours parce que physiquement. J'étais un petit peu entamé de la saison d'hiver, j'ai enchaîné pas mal de compétitions. Donc du coup, j'ai fait le choix, étant donné que je suis dans une position où je suis déjà qualifié pour les Jeux, de pas me presser, on va dire, à revenir. Et donc du coup, là, j'ai rattaqué l'entraînement la semaine dernière et tout va bien. Et le corps va très bien, donc c'est cool.
Le corps va bien, la tête va bien. La qualif est déjà dans la poche. Tout ça se passe plutôt bien. Parce que c'est vrai que quand on est dans la peau d'autres athlètes, on pense notamment à Kevin Mayer, qui malheureusement n'a pas réussi à faire les minima dans son décathlon. C'est vrai que là, on doit sans doute commencer à regarder les jours et les semaines qui défilent, non Thibaut? Toi, c'est pas ton cas, mais tu en connais d'autres, évidemment, qui sont dans ce cas-là.
Bah complètement. Moi, je sais que dans ma position, je ressens pas la même chose qu'on va dire mes concurrents français, parce que j'ai pas de qualif à décrocher, j'ai pas de pression, on va dire, liée à tout ça. Maintenant, pour Kevin, effectivement, ça s'est pas bien passé aux États-Unis, mais on est encore au mois de mars, il a encore d'autres possibilités, et comme c'est un grand champion, j'ai aucun doute sur le fait que lui va pouvoir réussir à décrocher sa qualif. On va dire dans les prochains mois.
Si son corps le laisse tranquille, si ses muscles le laissent tranquille, parce que évidemment, quand on est décathlonien, tous les muscles comptent. Et à 32 ans, c'est plus compliqué, évidemment. Thibaut, je le disais, tu montes petit à petit, tu bats tes records. Le dernier, c'était à Clermont il y a quelques jours, au meeting organisé par Renaud Lavillani. Tu as passé une barre à 5m92, c'est ton record personnel. Alors, c'est bien. Mais c'est encore un peu moins bien que papa, hein, me semble-t-il. Philippe Collet, ton père, qui lui avait passé 5,94. Est-ce que c'est une affaire familiale? Est-ce qu'on en parle beaucoup dans la famille Collet de ces records et de ces centimètres que tu grignotes petit à petit sur ton père?
Forcément, ouais, c'est sûr que moi j'ai toujours dit que c'était mon objectif, un de mes objectifs à terme, c'était de battre mon père. Et aujourd'hui, je pense que son record vit ses derniers instants, ses derniers mois, on va dire. Et effectivement, ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. Maintenant, faut pas s'arrêter à ça, entre guillemets. Il y a une grosse année. Dire si l'année olympique se passe bien, mais que j'ai pas battu le record de mon père, c'est pas pour autant que l'objectif est pas atteint. Maintenant, c'est sûr que je sais que pour être dans les meilleurs à Paris, il va falloir que je saute, je pense, plus haut que ce que mon père a pu faire à l'époque.
Oui, exactement. Et moi, Thibaut, je vais me permettre de te raconter une petite anecdote qui va te donner peut-être des idées. J'ai fait les Jeux Olympiques à Los Angeles en 1984 sur 100 mètres nage libre. Donc juste avant ton papa, moi c'était l'époque de Pierre Quinon et Thierry Vigneron. Oui. Et mon papa avait fait les Jeux 24 ans avant moi, à Rome en 1960, sur le 100 mètres nage libre aussi, c'était un spécialiste de 100 mètres. Et mon rêve depuis toute petite, c'était de battre le record personnel de mon papa.
Mais là, c'est différent quand même. Une fille et un garçon, quoi.
Ouais, mais enfin, 24 ans plus tard, oui, mais effectivement, c'était différent. Non, les techniques d'entraînement avaient évolué, etc. Et pour battre le record de mon père, je devais battre le record de France. Et ben, je l'ai fait le jour des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et ma fierté aujourd'hui, c'est toujours de dire j'ai battu mon père le jour des Jeux. Donc à toi de faire la même chose.
C'est une belle fierté, c'est une belle histoire et une belle fierté. J'espère vivre la même chose.
Alors battre ton père au jeu, ça, on veut bien le croire. En revanche, battre le record de France au jeu, là, c'est peut-être un peu tôt parce que le record de France, il est quand même assez haut, hein, Thibaut, je crois. Hein.
Eh ben, complètement. Je pense qu'il faut être très lucide sur la chose. En France, le record, ça a été le record du monde.
Eh ouais, c'est ça.
Renault a dominé la perche mondiale pendant 7 années. Donc, prétendre vouloir battre le record de France en n'ayant toujours pas fait 6 mètres, ça serait un petit peu, on va dire, optimiste dans le sens où si demain je saute 6 mètres, il reste encore 16 cm à faire. Et ça fait quand même la perche à ce niveau-là une marge énorme. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Moi, je suis pas là à dire que je veux battre le record de France. Il y a énormément d'étapes avant. Et si un jour j'ai l'opportunité et que j'arrive au niveau de pouvoir faire ce genre de choses, je m'en priverai pas. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là du tout, quoi.
Je crois d'ailleurs ton objectif, c'est d'être le deuxième performeur de tous les temps au niveau français. C'est-à-dire de battre Jean Galfion, dont le record, je crois, est à 6 mètres. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, je crois que tu as essayé 6 mètres 01 la dernière fois, hein.
C'est ça. Bah, en fait, l'objectif, c'est d'être le meilleur possible. Mais connaissant mon sport et en étant, on va dire, assez lucide, si demain je m'arrête en ayant sauté 6 m02, ça aurait été une très belle carrière. Maintenant, si, comme j'ai dit, si un jour j'ai l'opportunité et que j'arrive à un niveau où je peux prétendre à battre le record de France, je m'en priverai pas. Mais il y a beaucoup de boulot. Et effectivement, c'est pour ça que cet hiver, j'ai tenté 6 m02 parce que ça aurait été la deuxième performance française de l'histoire.
Ouais.
Et c'est une barre mythique, quoi. Donc Jean a fait 6 mètres. Moi, l'objectif, c'est de faire 6-0-1, 6-0-2, là, dans les prochains mois ou les prochaines années, quoi.
Et ton objectif, c'est bien évidemment aussi de décrocher une médaille olympique. Parce que quand on voit ce que tu as été capable de faire l'an passé, les progrès que tu fais, tu te considères aujourd'hui comme un véritable prétendant au podium olympique ?
Bah, c'est pas quelque chose que j'ai envie de crier sur tous les toits, parce que je pense que indirectement ça rajoute une énorme pression. Maintenant, dire que je vais au jeu pour faire cinquième, c'est pas du tout la vérité. Moi, j'irai au jeu en ayant fait cinquième l'année d'avant au championnat du monde, c'est forcément pour aller chercher une médaille. Maintenant, on sait pas de quoi demain est fait, mais si je suis au jeu et que je suis en finale le 5 août au soir, j'aurai les armes et je serai là pour une médaille, ça c'est sûr.
Alors le problème, c'est que la médaille d'or, alors c'est pas qu'elle soit réservée, mais presque quand même, par un ovni qui se nomme Duplantis, qui a le même âge que toi d'ailleurs. J'ai été voir vos dates de naissance, il est de 99 comme toi, mais lui c'est un extraterrestre. Donc comment il est considéré justement par les autres perchistes, et est-ce qu'on se dit que ce garçon est prenable sur une compète, évidemment sur tous les concours d'une année, je pense qu'il sera devant tout le monde, mais sur une compète, il peut être prenable, il peut aussi arriver à être dans un jour sans quelque part.
Est-ce qu'il peut avoir un jour sans ?
Voilà, est-ce qu'il peut avoir un jour sans ?
C'est beau. Oui. Après, ça reste un humain. Maintenant, nous, dans le saut à la perche, on le considère tous comme effectivement un extraterrestre. Il est seul sur sa planète parce que il fait quelque chose qui a jamais été fait. Il a fait 70 fois plus de 6 mètres en 3 ans. Il a fait 6 mètres 22, je crois, ou non, 6 mètres 23.
Ouais.
Et il est sur une autre planète. Maintenant, une compétition, c'est un jour, c'est une croix dans le calendrier. Et effectivement, il peut arriver plein de choses, mais ça reste que c'est quelqu'un qui a une régularité qui est assez folle. Et les jours, entre guillemets, où il peut se rater, il se rate en général aux alentours de 5,90 ou 5,95. Quoi. Donc, ça reste quand même assez difficile à avaler. Hein, mais il est pour l'instant, on va dire, archi favori, et je pense que tous autant qu'on est, on est très lucide sur le fait que effectivement, pour le battre, il faut qu'il soit dans un mauvais jour et nous dans un très 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 bon jour.
Ouais. Mais derrière, c'est ouvert. Il y a les Américains, il y a Nielsen, il y a Kendricks, il y a un Philippin aussi, je crois, un Australien. Mais ça se joue dans un mouchoir de poche. Il y a l'extraterrestre et tout le peloton qui est derrière et qui peut approcher des 6 mètres, dépasser les 6 mètres. Et ça peut être ton cas, Thibaut. C'est ça que tu vises. C'est ces mecs-là que tu vises.
Bah, complètement, c'est ça. On sait qu'il y a Duplantis qui est devant, au-dessus de 6 mètres, de manière quasi permanente. Et derrière, par contre, le wagon du dessous, c'est dont je pense faire partie, c'est les mecs à plus de 5,90, quoi. Et c'est que des prétendants à une barre à plus de 6 mètres. Donc, effectivement, on est quelques-uns.
Il y a les Américains, il y a le Philippin, il y a l'Australien. On est, on va dire, une petite équipe là à pouvoir se battre et prétendre à des sauts à 6 mètres, on va dire, sur le prochain grand championnat. Quoi. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses, je pense.
Alors Thibaut, moi j'ai cru comprendre que tu avais quelqu'un qui t'avait pris il y a quelques années sous son aile et qui était à l'époque ton modèle, qui maintenant est devenu ton équipier, ton ami, c'est Renaud Lavillenie. Est-ce que Renaud joue un rôle important aujourd'hui pour toi dans ta carrière et est-ce que son expérience des Jeux Olympiques, et Dieu sait s'il a l'expérience des JO, va te servir cet été? Est-ce que vous allez vraiment travailler ensemble?
Ben, en fait, ouais, complètement. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de m'entraîner avec lui à Clermont-Ferrand depuis 2 ans et demi. En plus, j'ai une relation un peu particulière avec lui parce qu'on se connaît depuis longtemps et que, en dehors du saut à la perche, on a énormément de passions communes. Donc, on échange énormément. Et effectivement, là, en cette année olympique, ben, ce qui est un peu marrant, c'est que moi, étant déjà qualifié, je me retrouve dans la.
C'est toi le conseiller. C'est toi qui le conseille.
Je le conseille pas, mais j'ai hyper envie qu'il soit là, quoi, de partager ça avec lui. Parce que quand on sait ce qu'il a fait, moi, ça serait une belle. Enfin, j'apprécierais le moment, quoi. C'est sûr que si Renaud est au jeu et que je suis avec lui, c'est assez fou parce que j'ai des photos avec lui où en 2010, je devais mesurer 1m20 et il sautait déjà 6 mètres, quoi. Ouais. Donc effectivement, on échange beaucoup. C'est vrai que, bah, il peut me conseiller sur pas mal de trucs et après, on reste aussi, bien sûr, des adversaires. Et comme Renaud est un guerrier et moi, j'aime pas perdre, ça fait que quand c'est l'entraînement ou c'est la compète, c'est la compète. En dehors, ça se passe très bien, mais il y a un vrai esprit de compétition entre nous et c'est sain. Et effectivement, là, pour les Jeux, c'est des bons conseils à prendre.
Tu crois que ça va le faire pour Renaud? Tu crois qu'il va aller la chercher de sa qualif au fond de toi, Thibaut?
Moi, j'y crois. Après, connaissant le personnage, je sais que si Renaud est sur ses deux jambes et qu'il peut s'entraîner, tout peut arriver. Il nous l'a prouvé en 2021 quand il a fait 6-0-6 à 34 ans. Hein. Personne ne l'avait vu venir.
C'est vrai.
En revanche, nous, on savait qu'à l'entraînement, il était de mieux en mieux. Donc là, c'est un énorme défi qu'il attend maintenant. Je pense qu'il a suffisamment prouvé que c'était un grand champion et que si vraiment, s'il est sur ses deux jambes et que tout va bien, moi, je pense qu'il sera au jeu. Ouais.
Thibaut, dernière question avant de te laisser aller faire soit la sieste, soit un entraînement. concernant justement une autre perchiste qui, elle, malheureusement, s'est fait une grosse blessure. Tu étais d'ailleurs présent à ce moment-là, c'est Margot Chevrier. Les images ont été impressionnantes. On a tous beaucoup de peine pour Margot. Est-ce que tu as des nouvelles d'elle? Comment se remet-elle de cette gamelle? Est-ce que là aussi, tu penses qu'elle pourra aller... Alors, les minima, je pense que c'est quasiment fait, mais est-ce que tu penses qu'elle pourra être dans le coup pour les Jeux Olympiques, ou alors c'est beaucoup trop rapproché, finalement, entre la blessure et le début des Jeux?
Bah, effectivement, moi, avec Margot, on s'entend super bien, donc j'ai des nouvelles régulièrement. J'en ai pris la semaine dernière. On échange beaucoup, parce qu'effectivement, moi, ça m'a touché quand elle s'est blessée au championnat du monde, parce que j'étais aux premières loges. Elle s'est fait une blessure qui est grave. Maintenant, encore une fois, c'est des états d'esprit qui sont un peu particuliers parce que Margot, c'est une battante, c'est une fille qui lâche rien. Et je pense que dans une année olympique, je pense que le corps est capable de produire des choses assez incroyables. Et moi, tout ce que je lui souhaite, c'est de pouvoir être présente au jeu. Elle sait que c'est compliqué, que ça risque d'être un timing un peu serré maintenant. Il y a une possibilité, il y a un pourcentage de oui, c'est possible. Donc elle est accrochée à ça. J'ai envie de dire qu'on est tous un peu accrochés à ça pour elle. Et derrière, bah, on verra. Mais effectivement, la blessure qu'elle s'est fait, c'est quand même quelque chose de très grave. C'est sur un os qui est, on va dire, un petit peu embêtant parce que il est souvent sollicité. Maintenant, c'est une championne. Elle a le mental qu'il faut. Elle est entourée comme il faut. Et comme il y a une part de possibilités, moi je pense que ça peut le faire aussi et elle se battra, quoi.
Eh ben, on lui souhaite en tous les cas d'être présente à tes côtés et aux côtés de l'équipe de France d'athlétisme et de la perche, parce que c'est une vraie famille, les perchistes, on l'a bien compris. Toi, ta famille est dans la perche depuis toujours, ou presque. Ton père, ton grand-père qui t'a mis, je crois, une perche dans les mains alors que t'étais tout bébé, ou presque. Et on voit que ça a des résultats. Merci Thibaut, on te souhaite bonne prépa pour ces Jeux. Alors, c'est plutôt la sieste ou l'entraînement là maintenant, là, à 13h24?
Là, je vais pas vous mentir, c'est dimanche, c'est plutôt la sieste.
Eh ben, bonne sieste, Thibaut. T'as raison d'en profiter.
Merci à vous.
À bientôt, Thibaut Collet, donc champion de France, non pas encore recordman de France, et bientôt recordman de la famille, mais pour l'instant, c'est encore papa Philippe Collet qui avec son 5m94 est encore devant. 15h27, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Sport et nous sommes en plein cœur de notre mag olympique, comme tous les samedis, comme tous les dimanches. On s'intéresse évidemment à la montée en puissance vers ces Jeux Olympiques en accueillant les athlètes qui, on l'espère, brilleront dans quelques semaines sur les Jeux. On est également sur la route de Gand-Wevelgem avec Arnaud Souk, avec cette grande classique belge qui précède une encore plus grande la semaine prochaine, le Tour des Flandres. Ça bouge à l'avant et tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de vent, du vent d'ouest a priori, mon cher Arnaud, qui évidemment pourrait provoquer quelques cassures, quelques bordures.
Eh bien, c'est précisément ce qu'il s'est passé, puisque vent trois quarts d'eau, on va dire, qui a permis dans une grande ligne droite à découvert, comme notre ami Cyril Guimard les aime tant, lui qu'on retrouvera tout à l'heure, a permis, sous l'impulsion notamment des Alpecin de Koenig, de Mathieu Van Der Poel et de Jasper Philipsen, de former un groupe de 29 unités dont on nous disait aux dernières nouvelles qu'il aurait 25 secondes d'avance sur le reste du peloton. Un groupe dans lequel on retrouvait donc Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen. On avait également Stephen Kung, Michael Matthews ou encore Olaf Koch présent dans ce groupe. Donc voilà, ça ne veut pas dire que la course est jouée, mais quand je te parlais du vent, il va encore y en avoir beaucoup qui pourraient jouer son rôle dans les prochains kilomètres, puisqu'on va continuer comme ça à aller vers le sud-est, et donc avec un vent nord-nord-ouest, eh bien ça va continuer à permettre des bordures. On pourrait encore avoir des scénarios similaires de bordures. Justement, on a une échappée de 8 bonhommes avec notamment Mathis Lebert, le français. Elle avait 5 minutes d'avance tout à l'heure quand on s'est parlé, elle n'a plus que 2 minutes d'avance.
Merci Arnaud, on te retrouve tout à l'heure, hein. On va vivre évidemment en fil rouge ce Gand-Wevelgem tout au long de l'après-midi, et Cyril Guimard sera avec nous tout à l'heure pour évoquer cette semaine sainte. Sophie, on accueille Iron Man, l'homme qui se reconstruit à chaque fois et qui repousse, il y a ses ailes qui repoussent, la queue du lézard repousse aussi, et à chaque fois il est encore plus fort. C'est Samir Aït Saïd qui est avec nous, c'est un plaisir toujours de discuter avec Samir. Comment ça va, Samir ?
Plaisir partagé. Ça va super, merci vous.
Nous on est bien, on est très contents de discuter avec toi, parce que c'est vrai, mais je le dis vraiment sans flagornerie, c'est toujours un plaisir, toujours le sourire, toujours sympa, et puis ton histoire évidemment, toute la France la connaît, toute la France l'a vue. Alors on va pas en faire des tonnes, mais c'est vrai que cette gamelle à Rio en 2016. Je pense que la France entière a bu ces images. Est-ce qu'aujourd'hui encore,
la gamelle et la façon dont il a réagi après l'hôpital et la.
Exactement. Et est-ce que aujourd'hui encore, on t'en parle tous les jours de cette histoire, ou ça a quand même tendance à disparaître petit à petit?
Alors pas tous les jours, bien évidemment qu'on m'en parle pas tous les jours, mais c'est vrai qu'on m'en parle régulièrement, et même des gens qui sont pas issus du milieu de la gym. Ont tendance à m'en parler. Et ouais, voilà, effectivement, comment j'ai fait pour revenir au plus haut niveau avec une blessure comme ça. Mais voilà, franchement, c'est du passé.
Ouais.
J'ai mes objectifs en tête, et peu importe ce qu'il a pu se passer ces dernières années, ça c'est. On s'en fout.
Voilà, mais ça fait partie de ton histoire, c'est imprimé
exactement
au plus profond de toi, et effectivement, tout au long de ta vie, ça t'accompagnera, même si évidemment, on se tourne vers l'avenir, parce que il y a que l'avenir qui compte, et on le sait, les Jeux Olympiques n'ont pas toujours été très heureux pour toi, du coup. Alors, il y a eu cette blessure à Rio, il y a eu la dernière édition, c'était à Tokyo, mais tu étais blessé pendant la compétition, t'as tenu à aller jusqu'au bout quand même, et t'as terminé quatrième.
Et en 2012, déjà à Londres,
et puis
tu
as
espéré la qualification et tu l'avais raté, c'est ça, hein, enfin, Samir.
Exactement, ouais.
Ouais. T'es un peu lâche commune quand même sur les Jeux Olympiques. Et pourtant, tu veux.
On dit jamais 203, maintenant, c'est bon, c'est fait.
Ah ben voilà, c'est fait.
Mais bon, non, franchement, honnêtement, je vais vous dire un truc, je me sens, on va dire, chanceux dans le sens où, voilà, j'ai eu cette blessure au biceps. J'aurais pu ne pas pouvoir faire ma finale.
Ouais.
Voilà, j'ai eu la chance de faire justement cette finale olympique et voilà, terminer quatrième. Quatrième, c'est pas une place qui me fait plaisir.
La médaille en chocolat, ça plaît pas aux athlètes,
voilà,
ça. Hein.
Exactement, c'est pas une place dont je me satisfierais, pardon. Mais Bon, en tout cas, oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma finale. À Rio, je n'ai pas eu cette chance.
Ah, là, c'était quoi, plus compliqué, ouais.
Je me sens vraiment chanceux.
Ouais. Et pourtant, de faire une finale aux anneaux avec un biceps dans la boîte à gants, ça n'a pas dû être évident quand même. Hein,
franchement, pour être honnête, ça a été la pire douleur que j'ai pu ressentir. J'aurais préféré me péter le tibia. Franchement, c'est plus simple. On se pète le tibia, hop, on va au bloc. Là, il va falloir faire le complet aux anneaux avec, je sais pas, j'avais trois fissures au biceps.
Oh.
Là, ça a été très long. Je sentais comme une...
Des coups de couteau, non?
Ouais, non, c'est même pas des coups de couteau, c'est une fermeture éclair. Plus je passais, plus je sentais...
Aïe, terrible.
Mais Samir, t'as un mental de dingue quand même. Quand
c'est un warrior, ça.
Tu reviens à chaque fois plus fort. Il paraît que tu t'entraînes comme un forcené, que tu mets des gilets de 5 kilos sur les épaules pour pouvoir faire tes enchaînements. C'est quoi? D'où tu puisses ce mental? C'est quoi ta source de motivation? C'est quoi ton secret pour être aussi fort?
Franchement, il y a rien d'extraordinaire. C'est juste voilà de l'envie du travail. Et non, clairement, voilà, moi j'ai un rêve, c'est les Jeux. J'ai fait une promesse à mon père en ce qui concerne les Jeux Olympiques aussi. Donc voilà, généralement, quand je m'engage, je ne m'engage pas à 50%. C'est soit je m'engage à 100%, soit je préfère me taire. Et là, voilà, quand j'ai donné ma parole que je reviendrai au plus haut niveau pour Tokyo et au plus haut niveau pour Paris, voilà, ce n'était pas encore une fois des paroles en l'air. Tout ce que je dis, je le mets en application. Je dis pas que je vais réussir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais me donner tous les moyens, clairement. Clairement, et c'est ce que je fais.
Ouais, moi, j'ai mon petit cousin qui a été le prep physique de Samir. Il m'a raconté, tu dois ton Cédric Fossou, ça te dit quelque chose, Samir?
Cédric Fossou, oui, carrément.
Voilà, c'est mon petit cousin, et il m'a raconté un peu vos séances d'entraînement, et il m'a dit que tu étais effectivement un véritable guerrier. Alors, Samir, 34 ans, je vais pas te traiter de papy, moi qui ai presque le double de ton âge, mais quand même, dans une salle de gym, t'en trouves pas beaucoup, plus beaucoup des plus vieux que toi maintenant, non?
Bah, il y en a quand même.
Il y en a quand même. Ah ouais.
Même au niveau mondial, là, on enchaîne les Coupes du Monde et il y en a pas mal quand mon âge et même voire un peu plus vieux. Mais franchement, je vais vous dire un truc, je me suis presque jamais senti aussi fort qu'à l'heure actuelle. En tout cas, en ce qui concerne la préparation de Tokyo et de Rio, je suis beaucoup plus fort physiquement que ces deux dernières Olympiades. Donc, ouais. Comme quoi, ça ne veut strictement rien dire. J'ai mis des choses en place que je n'avais pas mis forcément avant. Donc, moi, je me sens très, très bien.
C'est marrant parce que dans l'idée qu'on se fait de la gymnastique, alors c'est peut-être plus la gymnastique féminine, mais c'est plus les petites poupées de 14-15 ans. Bon, on a tous en tête les images de Comaneci, les petites poupées romaines ou russes. C'est différent quand même chez les garçons. On peut faire de la compétition et être très performant plus tard qu'au-delà de l'adolescence, quoi, en quelque sorte.
Oui, c'est vrai que les filles ont une carrière vraiment beaucoup plus courte que les hommes. Et encore, hein, et quoi qu'il y a une ouzbek, alors je ne peux pas dire de bêtises, une ouzbek ou une kazak qui a, je crois que la nana, elle a 48 balais.
Ah ouais,
balais. Et elle est encore en Coupe du Monde. Je l'ai croisée il y a deux semaines. Hein,
incroyable.
Coupe du Monde à Bakou. Donc vraiment, aujourd'hui, le sport commence vraiment à aller de plus en plus loin dans l'âge. Et je trouve ça bien. Parce qu'avant, on se donnait des limites et je trouve pas ça forcément top pour un sportif de dire « Ah bah voilà, j'ai 20 ans, donc ça y est, ma carrière est terminée. Ah, j'ai 30 ans, il va falloir que j'arrête. » Non, c'est toi, en fonction de ce que tu ressens, que ta motivation déjà, principalement ta motivation, ton corps, comment il évolue, ce qu'il dit, il faut être à l'écoute de son corps. Si ton corps, il te dit « Arrête », il faut arrêter, il faut l'écouter. Mais par contre, si ton corps, il te dit « Bah voilà, j'ai encore envie, je sens que je suis capable. » Pourquoi arrêter? Pour rentrer dans une catégorie, non, c'est pas la peine. Et puis voilà, c'est se mettre aussi des challenges, c'est pas mal.
Surtout qu'aujourd'hui, alors Samir, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez les moyens financiers de continuer aussi. C'est-à-dire que très souvent, il y a encore quelques années, on arrêtait parce qu'il fallait commencer à travailler et gagner sa vie.
Exactement. Aujourd'hui, voilà, le sport évolue, la société évolue. On commence à être reconnu à notre juste valeur et encore on est loin de l'être comme on devrait l'être, Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on permet, le sport nous permet de continuer. Et voilà, on a des contrats qui nous aident justement à nous focaliser que sur l'entraînement et de la compétition. Et en tant que gymnaste, moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément parce que sinon, ça ferait longtemps que j'aurais dû être dans un cabinet de kiné à bosser.
Ouais, ou alors devant un micro à raconter les exploits des autres. Tu le feras peut-être un de ces jours.
Parce que tu crois que c'est ça qui nous paye vraiment, Christophe?
Non, mais ça permet d'exister, oui. Justement derrière aussi, de rester visible.
Mais on n'a pas envie de ça, Samir. Nous, on a envie que tu continues.
Ah bah ouais. Nous, on dit à ton corps qu'il faut qu'il continue. Hein. On a bien compris que tu écoutais ton corps.
Non, c'est peut-être pas un scoop, mais en tout cas, si vous êtes pas au courant, c'est clair que maintenant je vous le dis devant tout le monde, ouais, je continuerai jusqu'à Los Angeles, ouais.
Incroyable, génial. Jusqu'à Los Angeles.
C'est quoi Paris là? Paris, c'est.
On va parler de Paris.
Et des qualifications. Est-ce que tu es aujourd'hui qualifié? Est-ce qu'il t'en manque encore un petit peu pour garantir ta qualification? Tu en es où, justement?
Alors, il m'en manque encore un petit peu pour garantir la qualif. Aujourd'hui. On a fait 3 Coupes du Monde sur 4. Et en fait, il faut être premier ou deuxième du classement, du ranking. Et aujourd'hui, après les 3 premières Coupes du Monde, je suis premier sur le ranking. Ah. Maintenant, il en manque une quatrième. Donc, je veux être performant. J'ai pas envie de parler trop tôt. J'ai pas envie de m'avancer. Donc, aujourd'hui, je suis premier sur le ranking, mais il faut que je continue à l'être sur la dernière.
Ça voilà. Sera à Doha, c'est ça, au mois d'avril?
Exactement. Ouais. Exactement. Donc, le travail n'est pas terminé. Il est bien avancé, mais il est loin d'être terminé.
Donc ça veut dire que à Doha, tu dois terminer dans les 3 premiers, 4 premiers pour assurer ta place, c'est ça?
Alors, à peu près. C'est un peu plus complexe.
Ouais,
que
j'imagine, ça doit être bien compliqué.
C'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que en gros, je peux me permettre de me faire battre par 3 mecs qui n'ont pas d'équipe qualifiée.
D'accord.
Par exemple. Là, à Bakou, j'ai terminé troisième, mais devant moi, il y avait 2 Chinois. La Chine étant qualifiée déjà par équipe pour les Jeux,
d'accord.
Je passe directement à la première place.
D'accord.
Donc je prends les points du.
Oui, parce que ceux qui sont qualifiés par équipe sont aussi en individuel ou.
Voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Il peut y avoir les deux. Mm-hmm. Donc là, en l'occurrence, je peux me permettre d'être troisième des non qualifiés.
D'accord. Et alors après, Samir, une fois que tu es qualifié, tu postules pour être à nouveau porte-drapeau.
Non. Alors déjà, c'est plus possible et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose.
Mais alors justement, est-ce que comme Clarisse, tu considères que d'avoir été porte-drapeau à Tokyo devant très peu de spectateurs, finalement, fait que vous avez été que demi porte-drapeau? Qu'est-ce que tu penses de cette déclare?
Non, moi je pense vraiment différemment de Clarisse. Moi, ça a été une fierté pour moi d'être porte-drapeau. Donc qu'on soit porte-drapeau devant 1 million de spectateurs, 1 million de personnes qui sont dans le stade ou 3 personnes. Pour moi, ça reste la même chose. C'est toujours cette fierté de porter l'étendard. Et du coup, j'ai été porte-drapeau. C'est une fierté. Maintenant, je souhaite à tous les sportifs de vivre ce que j'ai vécu. Et il faut laisser le flambeau. Il faut donner, il faut donner la chance aussi aux autres de pouvoir vivre cette chance-là d'être porte-drapeau.
Et ton salto était beau, hein? Devant un stade vide, rempli, était beau.
Ben oui, parce qu'il y a peut-être le stade vide, mais il y a quand même plus d'un milliard, enfin je dis un milliard, mais c'est 4 milliards de téléspectateurs, je crois, devant la cérémonie d'ouverture. Donc, c'était pas un porte-drapeau à moitié ou à demi.
Ouais, même les étrangers me parlent de ce fameux salto.
Ah bah, tu m'étonnes.
on me dit que personne n'a jamais fait ça lors d'une cérémonie d'ouverture. On m'a dit tout le temps, les gens défilent de façon très formelle. Voilà, et toi, t'es arrivé en faisant un salto, en désamorçant entre guillemets ce côté-là un peu de.
Un peu guindé, voilà, ouais, c'est vrai que la cérémonie, ouais, t'as peu la place aux fioritures, quoi. Il faut défiler dans le bon ordre, à la bonne seconde, avec le bon pas, avec pas marcher sur le drapeau.
J'ai envie de vous dire, c'est à la Samir, hein, je me suis jamais pris la tête et j'ai toujours été moi-même sans forcément me prendre la tête. Et la cérémonie d'ouverture, elle a vraiment été à mon image.
Et un salto sur un bateau, ça aurait de la gueule quand même.
Ah ouais.
Ouais, bon. Mais je le ferais pas.
faudrait pas tomber dans la Seine, parce que même si on peut s'y baigner, soi-disant, moi, je mettrais pas le bout du pied.
Ouais, c'est clair. On est d'accord.
Merci beaucoup, Samir. Merci, c'était un plaisir de discuter avec toi. Bon, ben, on va pousser derrière toi, donc Doha au mois d'avril pour assurer définitivement cette qualif et ensuite les Jeux Olympiques à Paris. Et cette fois, pas de médaille en chocolat, on en veut une en vrai, en métal. Hein, tu la mérites.
On sera là.
On t'embrasse. Merci, Samir. C'est toujours un plaisir. À très bientôt. Samir Ed Saïd, notre gymnaste, son sourire, sa pêche et cette incroyable volonté qui va donc sans doute lui permettre de disputer les Jeux Olympiques et d'aller chercher une médaille. 13h42 sur RMC. On revient dans un instant. On va accueillir Léna Marjac qui a plein de choses à nous dire. Oui, parce que l'actualité olympique est très riche, a été très riche tout au long de la semaine. Et ça se poursuit encore aujourd'hui. À tout de suite sur RMC. Nous poursuivons notre magazine olympique comme tous les dimanches. On accueille Léna Marjac qui arrive avec nous. Bonjour Léna, comment ça va?
Salut Christophe, ça va très bien et toi?
En pleine forme Léna. Léna, on va commencer par le ping-pong. On n'arrête pas. Toutes les semaines, on parle de ces frangins là. Félix Lebrun notamment, le plus jeune. C'est le plus jeune,
17 ans. Ouais.
Et c'est le mieux classé mondial. Ouais. Cinquième mondial. Il est en finale des championnats de France.
Et oui, ça y est, énorme combat de Félix Lebrun. C'était il y a un peu plus d'une heure. Et aussi énorme ambiance dans la salle à Montpellier après sa victoire 4-7.
C'est une rockstar, le mec. Hein. C'est devenu une rockstar.
Ah, la famille est devenue finalement une rockstar. Des rockstars. Donc, victoire 4-3 face à Simon Gauzy. Et on retrouve justement sur place à Montpellier Julien Landry. Rockstar. Salut Julien.
Salut Léna, salut Christophe.
Bon, Julien, maintenant on rêve bien sûr de cette finale 100% Lebrun en simple avec Alexis qui est en train de jouer d'ailleurs.
Exactement. On a assisté d'abord à un très très grand match. Ce matin, un grand moment de ping, comme il l'annonce, entre Félix Lebrun et Simon Gauzy, l'un des trois meilleurs Français. Tu l'as dit, Félix Lebrun qui avait pourtant eu 4 balles de match dans la quatrième manche. Et Simon Gauzy est revenu avec des points d'anthologie qui ont fait lever le public. Tu l'as dit Christophe, des rockstars, 4000 personnes à Bougnol dès 10h ce matin pour accompagner Félix dans ce qu'il a lui-même reconnu après l'un des plus grands matchs qu'il a disputé dans sa carrière. Je vous propose de l'écouter.
Un des plus beaux, un des plus grands, gagné 11-9 à la belle contre Simon ici à Montpellier. Non, c'était en plus il mène 8-5 alors qu'avant je menais 3-1-6. Il y a un scénario de fou avec la balle de match encore. Franchement, c'était incroyable. Puis après tout le public qui crie Félix avec les applaudissements et tout, c'était incroyable.
Ouais, incroyable. Félix en avait des frissons. Il a quitté la salle là. Il ne regarde pas son frère. Il nous a dit qu'il allait le regarder par vidéo parce que son frère, lui, est en train de disputer également sa demi-finale et il mène déjà 2-7-1 pour ce qui s'annonce évidemment le grand moment de ce week-end. La finale entre les deux frangins ce soir à 17h. Remake de la finale de la saison dernière où Alexis s'était imposé. Alexis a d'ailleurs toujours battu son frère en compétition officielle. Pourtant, tu l'as dit, Christophe, et Félix est le mieux classé des deux, mais Alexis a un petit ascendant. Ouais. Sur son frangin, on va voir ce soir.
Il lit mieux ses services, j'ai lu.
Exactement, ouais. On va voir si ce soir c'est encore le cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une magnifique ambiance pour les frères Lebrun qui ont remporté hier leur premier titre en double et qui espèrent évidemment cet après-midi offrir un grand spectacle avec quelques annonces en plus. On aura au mois d'octobre un événement majeur à Montpellier, un tournoi qui s'apparente à un Master 1000 en tennis. Les meilleurs Chinois viendront à l'Arena de Montpellier pour défier les Lebrun chez eux ici à Montpellier. Et puis comme c'est une histoire de fratrie, ping-pong, parlons aussi des dames. Il y aura la finale des dames.
Oui, elles sont fortes, nos filles aussi. Hein.
Ouais, Camille et Charlotte, les sœurs Lutz qui vont s'affronter en finale à 16h. Il y aura les frères Lebrun à 17h. Une histoire de famille, c'est après-midi.
Ah ouais, on peut faire des doubles mixtes avec toute cette histoire.
Exactement, c'est extraordinaire. Mais oui, c'est des rockstars et c'est vraiment très plaisant à suivre. Le public montpelliérain ne s'est pas trompé. Il s'est déplacé en nombre. Alexis mène 2-7-1. Rendez-vous ce soir à 17h pour la finale.
Ah, tout à l'heure, Julien. C'est incroyable comme l'émergence, Sophie, d'une star française ou deux peut faire du bien à une discipline. Des Français qui cartonnent, et bien toute la France se met à s'y intéresser. Ça avait débuté, rappelez-vous, avec le biathlon qui était un tout petit sport que personne ne suivait vraiment, et c'est devenu aujourd'hui un vrai phénomène.
On se souvient de Sébastien Flûte aussi avec le tir.
Il faut que ça se poursuive, il faut que les générations continuent d'envoyer des grands champions. Mais là, il y a une vraie vague autour du ping.
On les adore parce qu'ils sont simples, ils sont accessibles, ils sont contents quand ils rentrent chez eux, ils sont contents de l'engouement qu'ils suscitent. réussite. La famille entière qui est mobilisée aussi, les parents qui sont là, bénévoles, pour aider à l'organisation des événements et tout. Ça me fait un peu penser au Manodou, moi. À Florent et alors Manodou, les parents qui sont toujours là au bord des bassins des années plus tard, alors qu'ils ont des enfants qui sont des immenses champions. Mais on voit le père de Florent, Jean-Luc, qui est président du comité régional. Ce sont des gens qui ont juste envie, qui aiment tellement leur sport qu'ils ont envie de le faire bouger, de le faire avancer. Voilà, et ça, je trouve ça génial.
Voilà, peut-être la finale entre les deux frères Lebrun, ce sera tout à l'heure. Léna, à 4 mois des Jeux Olympiques. Alors, on sait que les athlètes se préparent, mais on aura aussi, et on compte sur eux, des volontaires qui sont déjà en train de se projeter sur ces Jeux-là.
Et oui, parce que hier s'est tenue la convention des volontaires à Paris La Défense Arena. 20 000 bénévoles étaient présents sur les 45 000 qui officieront cet été. Alors, c'était des moments d'échange, notamment avec des acteurs du monde du sport, et tous aussi ont pu commencer à faire connaissance. Et pour eux, cette grande journée de convention a permis de rentrer enfin dans le vif du sujet.
Du coup, ça nous lance effectivement à 125 jours des JO. Ça nous lance vraiment dans le grand bain. Hâte d'y être, d'être à fond dedans, quoi.
On se projette déjà depuis quelques mois. Aujourd'hui, on est dans le concret. Il faut déjà se projeter en se disant les missions qu'on va avoir. Il faut les prendre à bras le corps.
Ça fait plaisir, ça se concrétise un peu plus. Parce que c'est vrai que ça fait des mois qu'on a postulé et du coup, ça devient enfin un peu plus réel.
On va enfin pouvoir se lancer dans l'ambiance et découvrir qu'est-ce que c'est vraiment d'être bénévole au jeu. Et de la fierté au dire que c'est grâce à nous que les jeux vont pouvoir avoir lieu.
Et d'ailleurs, tous ces volontaires ont pu rencontrer leurs ambassadeurs, dont fait partie un certain Guillaume Gilles, l'entraîneur de l'équipe de France de handball. Lui qui a déjà participé à 3 JO en tant que joueur, eh bien, il a tenu à rappeler l'importance du rôle des bénévoles et garde aussi de très très bons souvenirs à leur côté.
Ils jalonnent notre quotidien, on les croise à tous les endroits stratégiques du village, on les croise dans tous les moments de compétition, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et les Jeux, c'est quand même un moment tellement, tellement fort d'enjeux et d'émotions, qui sont souvent là aux premières loges pour assister aux grandes histoires, aux parcours qui se terminent mal, aux tensions, et en même temps toujours avec cette idée d'être un soutien, d'être un support pour l'ensemble de l'organisation et des athlètes en particulier.
Voilà Guillaume Gilles, le sélectionneur de l'équipe de France de hand. C'est vrai que sans les volontaires, il y aurait pas de
jeu. Il y aurait pas de jeu, il y aurait pas de sport, tout simplement. Et ces gens-là, il faut les considérer, les reconnaître, les gratifier, parce que c'est pas toujours facile non plus d'être volontaire. Hein. On le sait, aux Jeux Olympiques, il y a 45 000 volontaires qui vont être là sur les 300 000 qui sont portés candidats. Et puis il y en a qui vont être sur les plages de départ des finales d'athlétisme, de natation, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont être affectés dans les parkings, voilà, ou dans des endroits où ils ne verront pas les Jeux Olympiques.
Les accréditations.
Et c'est le jeu aussi, et c'est admirable.
Il y a 5%, je crois, des volontaires qui ne verront pas grand-chose des Jeux, mais qui sont quand même malgré tout volontaires. Des volontaires d'ailleurs qui ont touché leur tenue, leur équipement, c'est ça?
Alors, ils l'ont pas touché, ils l'ont vu. Ouais. Ils l'ont vu sur scène un peu de loin, mais en tout cas, ils l'ont vu, et c'est la marque Decathlon d'ailleurs qui s'est chargée de ces tenues. Chaque volontaire donc recevra 15 pièces en tout, un bob, un pantalon, un sac, une banane, chaussures, chaussettes, et bien sûr aussi des t-shirts éco-responsables et made in France. C'est l'entreprise Fil Rouge basée à Marseille qui confectionne les 250 000 t-shirts, et Kevin Morand s'est rendu dans les ateliers de fabrication.
Dans l'atelier coupe, avec ses grands rouleaux de tissu turquoise, Abdel Jalil s'occupe de la première étape.
Quand je pense qu'il va porter ces maillots-là, je suis content. Ça fait 8 mois que je suis à Fil Rouge et 13 mois que je suis en France.
Le responsable de l'atelier marquage et physio est fier de voir ses collègues floquer un par un les t-shirts des volontaires avec les différents logos de Paris 2024.
C'est beaucoup d'émotions parce qu'en fait, les personnes qui nous ont rejoints, en fait, c'est des personnes en insertion. On les a formées, coachées pour qu'ils développent de nouvelles compétences, de la confiance en soi.
Fatia est couturière et travaille depuis 2 ans dans cet atelier.
Je suis en train de faire la fixation du col. Je suis fière de mettre ma signature là-dedans.
Pour fabriquer cette unique éco-responsable, Decathlon a donc choisi cette PME, notamment pour sa dimension sociale et solidaire. Jean-François Aufort, président de Fil Rouge.
Ça fait partie de notre ADN. On emploie des gens qui, initialement, sont parfois un peu éloignés de l'emploi. Et notre métier, c'est de travailler sur leur parcours pour les rendre parfaitement employables.
Chaque volontaire recevra 4 de ces t-shirts dans sa panoplie.
Et d'ailleurs, donc, des t-shirts couleur bleu-vert avec des rayures qui rappellent la fameuse marinière.
J'espère qu'ils deviendront aussi mythiques que les tenues des volontaires des Jeux d'Albertville en 92. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'étiez pas née, Léna. Sophie, elle était toute petite.
Métallique.
Gris métallique argenté avec les couleurs des Jeux, c'était sublime. On en croise encore de temps en temps dans les stations de Charentaise, des gens qui ont gardé cette tenue, voilà, pour souvenir des Jeux de 1992. On va à la piscine ?
On va tout. Oui, c'est l'heure d'aller à la piscine. Et oui, bon. On va Saint-Germain-en-Laye parce que, eh bien, la plupart de nos nageurs et nageuses françaises et français sont à Saint-Germain-en-Laye. Alors, tous sauf Léon Marchand qui, lui, est aux États-Unis. Hier, d'ailleurs, Florent Manaudou s'est imposé sur le 50 mètres nage libre. Johan Endoy-Brouard sur le 100 mètres d'eau. Et chez les filles, deux victoires pour Beryl Gastaldello, 100 mètres nage libre et 50 mètres papillon. Et là, on va retrouver notre reporter sur place, Morgane Maury. Morgane, on attend avec impatience la course la plus importante de la journée, c'est la fameuse finale du 100 mètres nage libre masculin.
Oui, à 18h07, revanche peut-être du 50 mètres nage libre emporté par Florent Manaudou hier en 21 secondes 98, devant Maxime Grousset. Mais Maxime Grousset est en forme, il a nagé le week-end dernier à Nice en 48 secondes et 39 centièmes. Il veut faire descendre le chrono ce soir dans la piscine de Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi pas passer sous les 48 secondes. Il a aménagé son programme, il a moins de courses pour aller plus vite face à lui, Manaudou, qui va s'étalonner sur cet aller-retour, ce 100 mètres nage libre. Les autres temps forts de cette soirée, de cette dernière journée du Giant Open à Saint-Germain-en-Laye, le 200 mètres d'eau masculin avec un joli duel entre trois garçons: Mewen Thomas, quatrième des championnats du monde 2023, Johan Endoy-Brouard qui a été champion d'Europe sur cette distance, et le Suisse Mityukov, médaillé mondial en 2023, et enfin le 100 mètres papillon femme avec Marie Voitel. Mmh. Autre course à suivre ce soir à Saint-Germain-en-Laye.
Il va mieux, Johan Endoy-Brouard, Sophie, hein, ça y est, il est en une bonne période là. Hein.
Il fait une belle saison. Ouais. Il fait une belle saison. Il a été blessé la saison dernière, on s'en souviens, là il a fait un très bon hiver et il arrive à accumuler des performances de haut niveau. Alors c'est pas 52 secondes encore au 100 d'eau, c'est 53 5, mais il a été capable de le faire 4 fois dans la semaine, dont 3 fois dans la même journée, et ça c'est plutôt bon signe. C'est un temps qu'il place dans le top 12 mondial de cette saison et il le fait 3 fois dans la journée, donc voilà, de bonnes bases de travail pour être je l'espère pour lui, sur le podium au jeu.
On l'espère évidemment. Johan Endoy-Brouard qui fait partie de la team RMC, ces athlètes que l'on suit régulièrement dans leur préparation. Quelques autres actus en bref, Léna?
Oui, rapidement, un petit mot de Romain Canon, notre épéiste français qui s'est imposé hier à Tbilissi en Géorgie. Ça faisait 2 ans que notre champion olympique en titre n'avait plus gagné une Coupe du Monde, et en plus on le sait, hein, les épéistes français sont
chaud avec son coach. Hein.
Oui, en conflit interne, donc voilà, une victoire solide et de bon augure à 4 mois des Jeux Olympiques. Et on va prendre des nouvelles aussi de nos judokates françaises, notamment Audrey Tchoméo en moins de 78 kilos. Mauvaise opération pour la française parce que, eh bien, pour l'instant, le comité de sélection fédérale n'avait pas pu trancher entre elle et Madeleine Malonga pour aller aux Jeux Olympiques. Alors Audrey Tchoméo se retrouvait sur un grand slam, elle aussi à Tbilissi en Géorgie. Malheureusement, il n'y aura pas de victoire. Elle joue le bronze. Et la semaine prochaine, donc, Madeleine Malonga, elle, sera en Turquie. Et si jamais elle gagne, le billet olympique risque d'aller dans les mains de Madeleine Malonga.
Oh, c'est chaud. En plus, elles ne sont pas vraiment copines toutes les deux.
Non, la dernière fois qu'elles ont combattu, Audrey Tchoméo n'a pas voulu lui serrer la main, effectivement.
Merci Léna pour toutes ces infos. L'actualité olympique sur RMC, c'est évidemment toutes les semaines, le week-end surtout, samedi et dimanche, et aussi dans les émissions, notamment